Tech It News.
Et salut, c'est Ludo, on se retrouve pour un nouveau Tech It News. Un Tech It News à nouveau sur le thème des sports extrêmes. Hein. Vous savez, j'ai l'habitude de vous présenter ce type de sujet-là. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial. On retrouve vraiment une star locale, une star des Pyrénées et d'une discipline un peu particulière puisque... Il se distingue dans la trottinette freestyle. Voilà, c'est Louis-Mathieu Rivière. Un palmarès déjà hyper impressionnant pour à peine 18 ans. Au dernier FIS, 7e mondial, 3e français. C'est absolument impressionnant. Eh bien, on l'a reçu sur Tech It Radio. Il est venu nous voir et il a répondu à nos questions. C'était un super moment que je vous propose de découvrir dans cette interview d'une petite demi-heure. On se retrouve juste après. Ciao, ciao. Et salut Take It, je suis donc avec Louis-Mathieu Rivière, salut.
Bonjour.
Comment est-ce que ça va ?
Ouais, ça va, tranquille, tout se passe bien.
Eh bien, on est très content de te recevoir ici. Et donc, écoute, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, qui ne savent absolument pas qui c'est Louis-Mathieu Rivière, présente-toi très rapidement, qu'est-ce
okay.
que tu fais ?
Alors déjà, bonjour, donc je m'appelle Louis-Mathieu Rivière, j'ai 18 ans et je fais de la trot freestyle depuis bientôt 7 ans.
Yes, excellent. Et voilà, c'est un gros morceau. Hein. Je suis allé regarder ce qu'il fait et si on l'a invité ici, c'est pas pour rien. Il envoie grave, c'est vraiment très cool. Comment est-ce que t'es venu à la trottinette ?
Alors de base, il y a longtemps, je faisais du skate et j'en faisais. Au bout d'un moment, je m'amusais plus trop. Enfin, je progressais encore, mais je m'amusais plus trop. Et j'avais une trotte chez moi. Je m'amusais à aller chez des potes en fait, qui étaient genre 2-3 rues derrière chez moi. Et j'allais au début avec ma trotte. Et au fur et à mesure, j'amusais à faire un peu ce que je faisais en skate, mais avec la trotte. Et je me suis dit, tiens, c'est cool. Et j'ai voulu regarder sur YouTube. Et j'ai vu que sur YouTube, en Australie ou aux États-Unis, ça se faisait. Mais au début, il n'y avait personne qui en faisait ici. Du coup, avec des potes, on avait commencé à en faire. On était 3-4. Bon, des 3-4, il a resté que moi, qui a continué. Et du coup, ouais, je me suis mis à regarder sur YouTube les pros qui en faisaient dans d'autres pays, à essayer d'imiter ce qu'ils faisaient.
Ok. Quel âge c'était ça, ces moments où tu as commencé ?
C'était entre 11 et 12 ans.
Ok, donc là ça fait déjà un moment
ouais,
quand même
ouais,
que
là,
tu
ouais,
que
là,
tu
ça, ça va faire 7 ans là, en juillet là, cette année.
Ok, et donc est-ce que toi tu penses que là il y a vraiment une génération trottinette ? Parce que moi j'en vois de plus en plus, alors qu'avant on en voyait beaucoup moins. Tu penses que c'est vraiment une histoire
ouais.
de génération ou juste d'évolution ?
En fait c'est que ça, en France, ça va faire on va dire 3-4 ans que vraiment ça booste à fond. Et après, le sport en France, il a commencé il y a entre 10 et 15 ans en arrière. Mais sinon, ouais, là, franchement, ça monte de plus en plus. Et il y a une nouvelle génération qui se met de plus en plus à la trotte et qui se met de plus en plus à essayer parce que ça, déjà, c'est déjà plus viral qu'avant. Il y en a de plus en plus. Il y en a même des fois à la télé sur Riding Zone, et sur YouTube et tout. Donc, ça monte de plus en plus.
Et tu parlais tout à l'heure de mecs qui t'ont inspiré, d'Américains, d'Australiens ou quoi.
Ouais.
C'est qui t'a inspiré au début et qui t'inspire maintenant ?
Alors, une des premières vidéos que j'ai vues, c'était de Ran Williams. Donc, c'était sa WebEdit 1 et la WebEdit 2 qui étaient sorties déjà à cette époque-là. Et j'avais commencé par ses premières vidéos. Et après, aujourd'hui, c'est plus spécialement lui qui m'a source d'inspiration, mais je me calque de d'autres riders qui ont plus mon âge, qui sont de la même année que moi. Donc un Américain, Cody Flom, et deux Anglais, Leo Spencer, Jordan Clark, que j'ai eu la chance de voir sur certains gros événements.
Comme le FIS, j'imagine.
Alors au FIS, j'en ai vu un, j'ai vu Jordan Clark au FIS. Et après, je l'ai revu à un truc à Barcelone, c'était le championnat du monde, j'ai voulu aller voir. Ça fait 3 ans qu'il est à Barcelone, ça fait 3 ans que je vais le voir. Et du coup, j'ai pu rencontrer tous les pros là-bas et passer des mois avec eux, c'était bien cool.
Énorme. Et là, maintenant, ces pros, ils commencent à avoir une notoriété quand même assez vénère, mais... Oui. Je vais un peu t'envoyer des fleurs. Toi aussi, figure-toi que tu as une notoriété quand même non négligeable ici. Et je vais te raconter une petite anecdote. Il n'y a pas longtemps, je faisais une petite animation sur justement les émissions de radio dans un point jeunesse ouais. à Saint-Nazaire. Et mon ami, il m'a présenté comme celui qui s'occupe des sports extrêmes dans la radio et tout ça. Et là, il ouais. y a un jeune qui est venu me voir et qui m'a demandé « Ah oui, tu t'occupes des sports extrêmes, t'interviews des riders et tout ça. Est-ce que tu connais Louis-Mathieu Rivière et tout, est-ce que tu l'as déjà interviewé ?» J'étais là, waouh, super cool la notoriété.
Ouais, franchement, ça fait plaisir. Je le vois plus en plus que maintenant, il y en a... Enfin, ça m'arrive des fois avec des CBS, quand je suis au magasin et qu'il y a des gens qui rentrent et qui me connaissent, ça me fait bizarre au début. Mais je trouve ça cool, ce que je me dis, enfin, c'est un peu le travail qui porte ses fruits. À force de me donner à fond dedans, je commence à me faire un peu repérer, ça fait plaisir.
Grave, donc tu es quand même un peu conscient de cette notoriété
À l'échelle locale, ouais, je le vois beaucoup avec des CBS. Et un petit peu, vu que depuis quelques temps, je fais un peu de YouTube à côté, que j'ai réussi à avoir des sponsors et que pour moi-même, pour progresser et pour faire des compètes, je bouge beaucoup. Donc du coup, quand je vais sur des événements, des fois qu'il y a des gens qui vont me tilter quand ils vont entendre mon nom ou quoi, ça me fait drôle et ça fait plaisir en même temps, ça me motive de fou.
J'imagine, ça fait toujours plaisir hein, de voir que son travail est reconnu et tu viens de faire une transition parfaite pour ma prochaine question puisque j'allais te parler de ta chaîne YouTube justement où tu as quand même plus de 2000 abonnés, 2300
ouais,
et quelques.
Ouais, là je suis bientôt aux 2400, là je suis à 2380.
Excellent.
Donc c'est une chaîne que j'ai créée au tout début quand je faisais la troll, il y a des vidéos dessus qui datent d'il y a quand je commençais la troll donc ils sont pas terribles. Mais pendant longtemps, j'ai une chaîne où je pense je publie une vidéo par an, c'était genre ma grosse vidéo. Et je faisais pas vraiment de vidéos YouTube à part, je faisais que mes grosses parts avec mes gros tricks et les gros montages. Mais là, depuis on va dire un an ou deux, j'essaye d'un peu plus l'activer. Pendant un an, j'ai rien pu faire parce que j'avais plus de matos vidéo. Mais là, maintenant, je me suis motivé en plus avec ma meilleure pote qui est de Toulouse, donc Fanny Guintran. Une amie à moi, on s'est mis tous les deux sur ma chaîne et on a publié une vidéo par semaine. Donc maintenant, ça va booster un peu plus le rythme. Et je pense à peut-être pouvoir faire monter l'audience, c'est bien cool.
Carrément, c'est marrant, c'est encore une fois, je trouve, une histoire de génération. Tu penses qu'aujourd'hui, passer par YouTube et les réseaux sociaux, tout ça, c'est indispensable pour se faire un nom, une carrière ou...
Alors là, surtout en ce moment, sur entre autres, ce qui perd, c'est Instagram. Il y a plein de gens qui se font connaître uniquement à partir d'Instagram sans même toucher à YouTube et qui après, par Instagram, vont se dire « Tiens, je vais créer une chaîne YouTube. » Et après, ça monte, puis il y a plein de riders qui étaient au début pas trop connus ou qui étaient connus mais sans plus. Ils se sont mis à YouTube, ils ont réussi à buzzer et il y en a un bon, qui a quasiment arrêté à trot. Il s'appelle Tanner Fox qui a mon âge aussi, c'est un 99. Et il faisait la trot, il était pro et tout, il était quand même assez connu mais sans non plus, sans gros truc. Il est passé une fois sur une vidéo YouTube d'un mec connu, il s'est dit tiens je vais essayer. Il a surfé sur une mode, c'était l'époque, c'était les hoverboards, il a fait une vidéo à la con avec un hoverboard. Ça a fait 1 million de vues, il a fait tiens je vais en faire une autre, ça a fait 2 millions de vues. Ses abonnés ils ont monté et là aujourd'hui il a 7 millions de vues. Il fait de tout n'importe quoi, plus trop de la trotte, mais de base c'était sur la trotte. Et il y a plein de youtubeurs comme ça qui associent vraiment Facebook plus trop, mais surtout Instagram, YouTube et le ride. Et ça fait un combo qui fait qu'ils sont de plus en plus connaître.
Et c'est génial. Et ça, la génération justement 99-2000, vous avez une facilité à aller sur YouTube, quoi. Vous êtes né avec, c'est excellent. Et d'ailleurs, je vous invite, hein, chers auditeurs, à aller voir les vidéos. Hein. C'est donc ta chaîne, c'est...
C'est LMR, LMR Production. Donc Louis Mathieu Rivière, c'est les initiales, donc LMR Production.
Voilà, ouais, je vous invite à aller voir. Il y a un edit qui est sorti il n'y a pas longtemps, là.
Une vidéo 2018, je l'ai sorti il y a 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Bah, voilà, c'est ma vidéo 2018 que j'ai bossé pendant plusieurs mois. Et c'est celle où j'ai le plus travaillé, que ce soit niveau montage, vidéo et tricks dedans.
Yes, elle est très fat. Et donc, il y a les nouvelles vidéos avec ta pote Fanny là, qui sortent régulièrement. J'en ai vu quelques-unes.
Voilà, une par semaine, tous les lundis à 18h sur ma chaîne, il y a une vidéo qui sort.
Énorme. Donc, à ne pas rater, hein, likez, mettez un pouce bleu, la cloche, tout ça.
Ouais.
Vous savez. D'ailleurs, j'ai regardé un peu tes vidéos et souvent sur tes vidéos, on te voit avec un casque, des protections et même parfois un protège-dents.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas trop dans les années, enfin, il y a 10 ans en arrière, par exemple. Ouais. Est-ce que les mentalités ont changé?
Ben alors, ça dépend parce que je sais que dans la trotte, c'est malheureusement, et c'est dommage que ça ne change pas trop. C'est beaucoup divisé entre ceux qui font du street et ceux qui font du parc. Il y a très peu de... Enfin, souvent, ils ont du mal à se mélanger, surtout en France. Dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, ils s'en fichent que ce soit streeteux, parqueux, ils vont se mettre ensemble. Mais en France, c'est vraiment divisé. Et je sais que moi, pour ma part, bon, je faisais un peu des deux. Maintenant, je fais plus de parc parce que je m'amuse plus dedans. Mais je sais que, surtout quand je fais du parc, quand je fais du street, je m'en fiche un peu plus. Mais quand je fais du parc, c'est vraiment full protection. Ce que je vois de plus en plus, ça me sauve des vies, quoi. Le casque, les genouillères, parce que j'ai pris les réflexes tombés dessus. Et après, le protège-dents, depuis quelques temps, je le mets. Et là, dans mon récent trip que j'ai fait à Corby, en Angleterre, j'ai essayé une figure et je suis tombé. C'était un bac en descendant la courbe, donc je partais du haut, salto arrière, replaque en bas. Et le problème, c'est que j'ai mal géré ma rotation, je suis tombé à plat sur la tête, et dont aussi j'ai tapé la bouche. Et heureusement, mon protège-dents était là, parce que même là, encore aujourd'hui, j'ai encore un peu mal aux dents, mais franchement, ça a bien sauvé la vie. C'est là que je me suis dit, waouh, sans casque, c'est juste impossible. Quand je vois des gens qui vont dans des skateparks, qui roulent sans casque, et qui font des gros trucs, qui prennent des grosses hauteurs, qui font des saltos ou quoi, je comprends pas à quel moment ça revient pas en tête de pas mettre de protection, quoi.
Eh ben moi je trouve c'est super cette mentalité et c'est très cool. Et alors il y a pas du tout de problème du coup parce que moi je sais que quand j'allais dans les skateparks il y a de ça 10 ans justement, je voulais bien mettre des protections, j'avais un peu peur de me faire mal et tout ça, mais j'avais hyper peur du jugement des autres et c'était quand même assez mal vu, c'était un peu la honte de mettre des protections et tout ça. Aujourd'hui c'est terminé cette histoire, c'est bien vu.
Ben maintenant ça va dépendre des gens, enfin. Je sais que moi, par exemple, enfin, je suis surtout de l'encourager qui met de protection, mais pour moi, par exemple, à la limite, quelqu'un qui va faire du street et qui va pas mettre de protection, je me dis à la limite, ça peut faire partie du style et encore. Mais par exemple, du moment qu'on va dans un module, je trouve que c'est normal de mettre des protections. Après, je vois même chez les skateurs, il y a des skateurs qui font du street, ils vont être sans protec, ils vont être dans le bol, ils vont mettre leur protection, et enfin, de ce que je vois, il n'y a pas spécialement de critique ou quoi que ce soit. Donc maintenant, je trouve que c'est plus ancré et quand vraiment les modules sont gros, on comprend quand tu mets des protections, quoi.
Excellent, et ben c'est tant mieux, hein. C'est mieux de toute façon pour la sécurité de tout le monde, et c'est bien que tu donnes cette anecdote où ton protège-dents t'a protégé tes dents.
Ouais, et maintenant je suis tout le temps en protection, et quand il faut commencer, surtout quand, alors après, quand c'est des petits modules, du flat ou quoi, on s'en fiche, mais quand par exemple c'est des grosses rampes, ou des rampes tout court, c'est bien, il faut mettre les protections, ça devrait être obligatoire, il y a plein d'endroits où c'est obligatoire, et c'est pas pour rien que les skateparks sont fermés, qui sont donc privés en quelque sorte, parce que il faut payer une entrée pour rider dedans, ils obligent les protections parce que c'est obligatoire, c'est pour que ça pour tout le monde, pour éviter d'accidents, c'est vraiment super important les protections.
Et ben c'est super, et on va rester dans les skateparks, et moi j'ai envie de parler d'un truc dont on entend parler depuis très longtemps, c'est justement dans les skateparks une rivalité entre les skateurs, ouais. et la trottinette. Qu'est-ce que t'en penses? Comment t'expliques ça? Comment tu ressens ça?
Alors le problème c'est que moi après c'est un point de vue qui vient pour moi. Je trouve que, et puis j'ai entendu déjà parler plusieurs fois, le skate, c'est pas en train de mourir, mais en France en tout cas, aux États-Unis non, mais en France, c'est pas, ça se développe moins, la trotte, ça monte beaucoup, et je me dis que je sais pas si c'est une sorte de jalousie, comme quoi leur sport meurt et que le nôtre se développe, et du coup, ça les énerve, et il y a un truc que beaucoup de skateurs n'assument pas, et ça par contre, c'est parce qu'en tant qu'ancien skateur, j'ai vu des vraies sources, et j'ai eu la chance, quand j'étais petit, d'aller en Californie, je suis allé au musée du skateboard à Santa Monica, donc vraiment l'endroit où ça a été créé. Et le skate vient de la trotte au départ. Peu de skateurs le sachent et peu de skateurs l'assument. Ils vont faire non, 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 c'est du bullshit. Mais pourtant, je suis allé en vrai et je suis allé devant. Et celui qui a présenté ça, c'était le meilleur ami de la première marque de skate qui en fait des graphiques, qui s'appelait Dogtown. Où c'était quelqu'un qui avait pris des vieilles planches de bois, qui dessinait dessus et qui ont fini par faire des skates avec ça. Mais de base, le skate, c'est une sorte de trotte, donc un plateau, des morceaux de roller dessus, dont le mot skate qui en anglais veut dire roller, et un manche en bois. Mais vu que c'était complètement en bois, la fin de journée, ça cassait, et il rentrait en poussant juste la planche et le morceau sous la main. Et là, c'est devenu le skate. Mais de base, ça vient de la trotte. Et peu de skateurs l'assument, et souvent, ils vont insulter la trotte, parce qu'ils font « ouais, c'est des gamins, c'est des gamins ». Mais il y a quelques skateurs qui sont, on va dire, intelligents, qui savent faire le tri entre l'enfant de 8 ans qui a la Décathlon, qui a pris la première trotte qu'il a trouvée, et celui qui roule vraiment, il y en a quelqu'un qui savent le faire. Mais il y en a plein, pour eux, ils font l'amalgame du gamin et du rider, et je trouve ça bête.
Donc c'est quand même, là ça me fait plaisir d'avoir une réponse comme ça, quand même hyper engagée. Ça veut dire que c'est vraiment un problème qui existe encore énormément dans les skateparks. Ça a l'air un petit peu tendu, mais alors toi, ouais. Du coup, t'as quand même maintenant une notoriété et un niveau qui n'était plus le petit trottinetteur, ouais. de 8 ans. Est-ce que du coup, toi, ça t'éloigne de ce problème ou t'as encore des problèmes?
Moi, ça dépend. J'ai encore des fois des problèmes. Ça m'est arrivé jusqu'à il y a quelques temps, des fois, d'avoir des problèmes. Un skateur qui va trop l'ouvrir ou un BMX qui va vouloir s'imposer ou un mec en roller, pareil. Mais souvent, il y en a plein, c'est que de la bouche. Ils vont beaucoup parler. Et une fois qu'on va s'approcher, qu'on va leur passer au-dessus, parce que les skates, ça ne décolle pas très haut. C'est très rare un skateur qui va haut. Et quand il y en a un qui se met sur le bord et qu'on lui passe à 2 cm de la tête, là, il fait « Ah, j'ai peut-être un peu reculé ». Et un paquet de fois, j'ai vu des gens de l'autre côté du skatepark qui me gueulent dessus. Je m'approche ou je vais faire un truc juste à côté de lui et d'un coup, il va disparaître sans aucune raison, quoi. Et le problème, c'est qu'il y en a plein, ils vont parler, parce qu'ils vont dire « Ah, c'est un gamin, il fait de la trotte ». On va faire un truc impressionnant à côté et après, faire « Ah, ouais, tu fais des backflips, refais ». Il y en a plein, souvent, ils savent pas faire le tri et dès qu'ils remarquent après, ils vont être choqués. Donc, je trouve ça un peu bête, mais bon.
Ok. Eh ben, en tout cas, nous, on espère une réunification peut-être un jour.
Oui, c'est possible. Il y en a plein après, des super sympas. J'ai des amis skateurs, des amis qui faisaient la trotte, qui sont passés au skate pour des raisons perso. Mais bon, avec qui j'ai pas de problème non plus, ça leur a pas lavé le cerveau. Mais en fait, ce problème que je pense à les skateparks aussi, ça vient surtout avec les BMX et les rollers. On n'a pas trop de soucis parce que c'est souvent au niveau des lignes en fait. Le problème souvent, c'est qu'ils disent les trottes snakes. Alors snaker, c'est passer devant. Parce qu'en fait, les rollers, les BMX et les trottes, on a plus ou moins les mêmes manières de rouler un module. On va faire tout ce qui est des transferts, donc passer d'un module à l'autre, de la hauteur. Donc on a plus ou moins les mêmes trajets. Qu'un mec en skate n'a pas du tout les mêmes trajectoires que nous, donc c'est plus compliqué de cohabiter au même endroit des fois. Donc c'est pour ça qu'ils vont avoir des soucis. Mais après, avec des BMX, c'est beaucoup plus simple de s'entendre. Des rollers un peu plus compliqués, mais souvent, même les skateurs, que ce soit avec tous les autres sports, ils s'embrouillent. Souvent dans les skateparks, ils sont très puristes, ils se mettent à part et ils ont du mal à cohabiter. Après, il y en a qui ils sont pas bêtes, il y en a plein, ils sont pas bêtes non plus, ils vont dire oh, « Ok, je comprends ». Mais après, il y en a, ils sont bloqués, c'est des puristes, et pour eux, c'est le skatepark, c'est pour les skates, le reste, non, et voilà.
Ok, bah, le débat reste ouvert. On va suivre cette histoire-là. Je poserai la question à d'autres personnes, ça m'intéresse. Ouais. Niveau compétition, où est-ce que t'en es? C'est quoi ton palmarès? C'est quoi tes ambitions?
Alors, compétition, j'en fais le plus possible. Justement, d'ailleurs, demain soir, je pars avec une bande de potes à Valence, avec un shop qui a ouvert un skatepark et qui fait un contest là-bas. Donc du coup, on va bouger sur place pour rouler. Malheureusement, ici, il n'y en a pas trop encore d'événements. Mais par contre, dans la région, vers Montpellier et tout, il y en a beaucoup. À Marseille, je sais que là, cette année, c'est une des années où j'ai le plus bougé. Niveau contest, j'en ai fait un à Marseille, un à Bordeaux, autour de Montpellier, à Valence. Et donc du coup, je bouge beaucoup. Mon plus gros événement que j'ai fait, ça a été le FIS, je l'ai fait quelques fois en amateur. Et l'année dernière, pour la première fois, je l'ai fait en pro. Et c'est vraiment une énorme expérience. Genre quand on est en haut de la rampe, qu'on voit 3000 personnes autour de soi qui crient, Alors sur le coup, c'est très stressant. Mais une fois qu'on est dans la rampe et qu'on va entendre des personnes nous supporter, là, on se sent capable de tout. Et j'adore cette sensation. Il y a plein de gens qui critiquent ceux qui aiment faire des compètes. Ils disent « Ouais, trop compétition ». Mais pour moi, la compète, c'est le moyen de donner de l'adrénaline. Et quand on est avec des potes, c'est soutenir, genre se booster, se donner des envies, se pousser au-dessus de ce qu'on est capable. Et j'aime beaucoup. Et mon but ultime, c'est dans la trotte. Ça fait à peu près 5-6 ans. J'ai vu la première fois que ça a été créé. Il y a un truc qui s'appelle le ISA, International Scooter Association, qui en gros, c'est pas une fédé, mais c'est l'équivalent de notre fédé et qui crée des compétitions à l'échelle mondiale, dont la finale qui est depuis 3 ans à Barcelone. Et ils font des qualifications un peu partout en Europe. Malheureusement, j'ai pas pu encore en faire. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, je vais essayer de pouvoir faire des qualifications. Parce que un de mes buts un peu ultime dans la trotte, c'est réussir à être un des premiers Français. Je crois qu'il y en a eu un seul une fois qui a pu le faire. À être sur une finale mondiale, essayer de me dire, montrer qu'en France, il y a du parc. Parce que souvent, on va dire les pays, il y a l'Angleterre qui est très typée parc, la France qui est très street, et les États-Unis un peu des deux, et l'Australie très parc. Et du coup, sur les grosses compétitions qui sont que des compétitions parc, il y a beaucoup d'Anglais, c'est les meilleurs, après les Australiens, les Américains, mais il n'y a pas de Français, il n'y a jamais de Français à ce niveau-là, et je trouve ça dommage, parce qu'il y a une communauté qui est super bonne, mais qui n'est pas mise en valeur en France. Et vraiment, un de mes buts, c'est essayer de venir sur une compétition à échelle mondiale et montrer que la France peut faire du parc et peut être bonne à ce niveau-là.
Énorme, mais si du coup, si toi, tu as l'occasion de faire du parc et si tu t'entraînes autant à faire du parc, j'imagine que c'est un peu grâce au nouveau skatepark de Perpignan quand même.
Ouais, aussi, parce que pendant longtemps, en fait, je faisais des deux. Au début, j'ai commencé par le parc, comme un peu tout le monde. Après, j'ai fait du street à côté, je faisais des deux en même temps parce que j'aimais bien, parce qu'on pouvait faire un peu des deux. Et après, quand je voyais que je pouvais plus progresser en parc parce que les modules ne le permettaient pas, je me suis mis à faire un peu plus de street. Et depuis le nouveau skatepark, je peux enfin faire des deux autant que je veux, quoi.
Énorme. Et donc, j'ai envie de dire merci Braveheart d'avoir fait le parc quand même, enfin d'avoir mis en place toute cette histoire. Tu les connais?
Je connais Mathieu Zamora parce que quand je faisais du skate à l'époque, c'était mon professeur de skate, c'était lui qui m'a appris le skate au début. Donc après, je le connais. Ouais.
Big up à Mathieu Zamora qui est passé chez nous et qui nous écoute très certainement. Big up à toi Mathieu. Et donc Mathieu Zamora, il est chez Braveheart. Et donc Braveheart, ils organisent également le championnat de France de skate. Enfin, ils organisent, ils co-organisent, ouais, avec la fédération. Donc c'est du 9 au 10 juin à Perpignan. Toi, tu seras, tu vas aller voir quand même.
Du 9 au 10 juin, je serai pas ici, je serai en vacances normalement aux États-Unis, donc je serai pas là. Mais sinon, quand il y a des événements au Moulin, j'essaierai de passer quand je pourrai. Mais par contre, d'ailleurs, je trouve ça un peu dommage du point de vue de Braveheart qu'il soit que basé sur le skate et qu'il se propose pas à ouvrir d'autres choses plus ouverts à d'autres sports, pas que le skate. Je trouve que c'est un peu dommage. Au niveau de la trotte, ils font beaucoup d'événements pour le skate, mais pour la trotte, ils en font pas ou ils s'intéressent pas à ça. Je trouve ça dommage.
Donc toi, tu serais plus pour l'ouverture, vraiment, tu le disais un petit peu tout à l'heure, hein, d'une fédération et qu'il y ait des championnats de France de trottinettes aussi à Perpignan.
Bah, ça pourrait être cool, pas forcément même un championnat de France, mais juste un événement. On a un support qui est énorme, il est super grand, il est cool à rouler. Et il y a moyen de faire comme ils ont fait pour les compétitions de skate, qui ont fait sur 2 jours. Il y a moyen de faire un événement de malade, de faire que ce soit avec de la musique, des passages, voire limite faire des démos si on fait venir des gens un peu connus. Il y a moyen de faire un super truc, comme ils ont fait en skate, mais à la place des skates, faire de la trotte. Voire même faire un événement sur plusieurs jours, comme un mini-fizz en 3-4 jours avec de la trotte, du skate, ou trotte-roller, skate-roller, trotte, enfin faire un multisport. Il y a une grande communauté de riders, que ce soit dans tous les sports, que ce soit en roller avec N-Again, que ce soit en BMX à l'ancienne avec BMX66 ou Braveheart pour le skate. Il y a moyen de faire un gros truc pour un gros événement qui regroupe un peu tout le monde, ce qui pourrait montrer que quand même à Perpignan, on arrive quand même à tous rider ensemble, ça pourrait faire un beau truc.
Eh bien écoute, Mathieu, le message est passé, voilà. Le message est passé, j'espère que tu nous entends. Je change un peu de sujet, nous on vient de faire tout juste un reportage sur le Wavesurf Café, déjà est-ce que tu en as déjà entendu parler ?
Ouais, j'ai entendu parler, je suis déjà allé 2-3 fois avec des potes déjà.
Énorme, bah écoute, ça c'est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui n'ont pas entendu le reportage sur le Wavesurf Café, c'est un café qui propose une vague artificielle et un espace de trampoline. Et dans cet espace de trampoline, il y a un bac à mousse. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu t'en sers pour t'entraîner, faire des tricks ou quoi ?
Ouais, moi justement, j'y suis allé pour la partie trampoline et bac à mousse pour vraiment m'entraîner aux rotations et être plus à l'aise parce que vraiment, c'est super important. Par exemple, je sais que il y a des années, j'avais appris backflip, j'avais arrêté parce que je m'étais fait mal. Parce que j'étais pas à l'aise, je savais tourner, mais je savais pas la contrôler, ma rotation. Et cet été, avec un ami à moi qui savait le faire à pied, il m'a appris comment le faire à pied sur le sol, du coup à plat. Et ça m'a entraîné à être à l'aise à la rotation. Et du coup, quand je me suis réentraîné à le faire en trotte, de suite j'ai tilté, j'ai compris, ça m'a fait un tilt dans la tête. Je me suis dit, mais en fait, si je m'entraîne à faire mes trucs à pied, dès que je serai en trotte, je serai plus à l'aise, que la sensation, je l'aurai déjà, donc je pourrai contrôler plus, moins tourner vite. Et du coup, ouais, je trouve que tout ce côté gym, trampoline, bac à mousse, ça m'aide beaucoup et ça m'aide à être plus à l'aise déjà avec mon corps pour après le reproduire en trotte.
Énorme. Et bien, big up aussi au Wavesurf Café, hein, qui nous ont accueillis il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est très cool parce que eux, vraiment, c'est leur but de faire progresser des riders et d'accueillir des riders. Ouais. Ils sont vraiment dans cet état d'esprit glisse. Et c'est très cool. Du coup, on va parler un petit peu. Tu parlais tout à l'heure des CBS. Ouais. On va parler de tes sponsors. T'as des sponsors, ouais.
Ouais, alors actuellement, sponsor, j'ai donc du coup des CBS, Dernier Cri Board Shop, qui est juste en face des studios, qui est un magasin qui fait donc de la trotte déjà, et qui font skate, textile, snowboard, un peu de roller. Et franchement, ils sont super cool. Ils m'ont pris il y a 3 ans. Je les ai aidés à développer le rayon trotte. Et du coup, quand je vois le rayon trotte qui évolue, je me dis que c'est un peu. C'est un travail dans lequel j'ai participé, à les aider à les faire connaître, parce que quand ça a changé en fait, à Perpignan, personne n'allait à des CBS, c'est ce qu'ils connaissaient pas. Pour eux, ils faisaient pas de trotte. Donc du coup, quand on s'est mis à faire de la trotte et que j'arrive à voir que j'allais faire venir des gens là-bas, parce que je leur ai dit que des CBS font de la trotte et tout, et que je vois comment ça a évolué, ça fait plaisir, parce que ça fait plaisir de voir un shop qui évolue, qui grandit, de voir des gens qui font je suis allé là-bas s'adapte. Et tout. Ouais, voilà, qui s'adaptent un peu à tout ce qui se passe, donc ça fait plaisir. Après, de DCBS, j'ai une autre marque qui s'appelle Sand, une marque de vêtements qu'un ami à moi a créé. Donc depuis pas longtemps, je les représente, ils vont bientôt m'envoyer un item. Donc une marque qui vient de Valence et qui a un site internet. Donc leur Instagram, c'est svnd.co. Donc sur Instagram, il y a le lien qui est dans leur bio, donc du coup, ça permet de pouvoir acheter leurs vêtements. Et puis pour ceux qui peuvent me suivre sur Instagram aussi, je les identifie sur mes posts, donc du coup, vous pouvez retrouver.
Vas-y, donne ton blaze Instagram, comme ça, moi, c'est fait.
Ouais. Alors mon Instagram, c'est lmr-du-bas. The, donc THE.red.
Ok, ça c'est noté. Les gars, allez-y, follow, allez-y, suivez-le, c'est grave cool.
Et donc, du coup, ouais, j'ai ça et aussi un food truck qui s'appelle Airstream qui font des super burgers tout maison avec des produits de qualité et tout. Et depuis pas longtemps, je leur fais un peu de pub parce que, bon, quand on est rider, on a souvent, ceux que je connais, on a souvent un gros appétit, donc ça fait plaisir d'avoir un petit coin bouffe bien et tout. Donc du coup, voilà, je représente eux et je recherche actuellement une marque avec mon shop. On essaie de contacter des marques, j'essaie de voir sur Instagram pour essayer de trouver une marque qui pourrait me supporter et essayer de m'aider justement à me déplacer sur les gros événements comme le ISA et les trucs comme ça.
Excellent. Et du coup, tu te déplaces quand même vachement. Tu me disais tout à l'heure, hein, sur Valence, sur Marseille, tout ça.
Ouais.
T'es pro, tu vis de ça?
Alors non, de la trotte je vis pas, non, j'ai déjà gagné de l'argent grâce à des événements de la trotte, mais je vis pas de ça, pas encore, j'aimerais, peut-être un jour, hein, on sait jamais, mais pour le moment non, mais je vis ce sport à fond, je vais rouler tout le temps quand j'ai du temps et que la météo aussi me le permet, je vais rouler, et du coup ouais, je bouge quasiment tous les week-ends dès que je peux financièrement parlant, je bouge. Là, par exemple, en décembre, avec des amis à moi d'un peu partout de la France, donc de Nice, de Paris, de Suisse, de Caen, et tout, on a bougé, on allait en Angleterre. On a fait un gros trip à 5, c'était super cool, on est allé dans le plus gros skatepark d'Europe. Après, je sais que souvent, et puis là d'ailleurs, bientôt, il réouvre à Eurocamp Club, un skatepark où j'ai fait pendant 2 années d'affilée, j'ai fait la colo qui est organisée. Et la 3e année, j'ai été moniteur là-bas, donc ça m'a fait plaisir.
Énorme.
Donc du coup, ouais, un gros skatepark placé à Tossa des Mares avec un décor magnifique. Et là, du coup, en mars, il réouvre. On va y aller souvent avec des potes à moi, donc on bouge beaucoup à ce niveau-là. À Marseille, Bordeaux, j'y suis allé quelques fois, Toulouse. On bouge beaucoup parce que c'est comme ça qu'on fait... Bon, déjà qu'on fait des nouvelles rencontres dans le ride, parce que ça fait plaisir d'avoir des potes un peu partout. Du coup, on peut squatter chez l'un, chez l'autre. Du coup, ça fait découvrir de nouveaux endroits. Et aussi, pour ceux qui veulent vraiment progresser... Pouvoir rouler un peu tout, ça permet de s'habituer, tester de nouvelles rampes et ça fait plaisir.
Excellent. Et donc, qu'est-ce qui te manque là pour devenir pro? Quelles sont les étapes à franchir pour vraiment vivre de la trotte? Il y en a en France qui vivent de la trotte
En France, ouais, y en a quelques-uns qui arrivent un peu à vivre de la trotte. Enfin, non, il y en a qui arrivent à vivre de la trotte. Mais ceux qui arrivent à vivre de la trotte, ceux qui vont être sponsorisés par les grosses, grosses marques et qui vont être vraiment, on va dire, en haut de l'échelle chez la marque. Parce qu'en gros, on va dire... On va dire ma définition du pro, enfin en tout cas en trotte, c'est celui qui est sponsorisé par une marque, qui va pouvoir toucher un salaire ou non, et qui va vraiment leur faire de la pub à fond, et la marque va les envoyer sur des événements, en voyage, ou des choses comme ça. Ça pour ça, et après avoir au moins une petite communauté, parce que quand je vois des gens qui vont se dire être pro alors qu'il n'y a personne qui les connaît, je trouve ça, enfin c'est pas vraiment pro, mais après... Vraiment, on va dire, pour vivre de la trotte, c'est être sponsorisé par une marque qui leur donne un salaire.
Ok, et alors du coup, vivre par exemple avec les récompenses des compétitions, ça c'est pas encore envisageable en France?
En France, non. Après, il y a quelques riders, il y a un exemple, un américain qui était super bon, il est toujours hein, une grosse machine, qui ridait au début pour une marque, une marque l'avait sponsorisé, du coup il touchait pas vraiment de salaire. Il a fait plein de compétitions, une période où il y avait, on va dire, beaucoup d'argent dans la trotte. Il faisait toutes les compétitions où il y avait des gros chèques à gagner. Et à force de ça, il a eu tellement d'argent comme ça qu'il a pu racheter la marque carrément. C'était des compétitions à 5 000 $, 15 000 $, 20 000 $. Et quand par mois, il en fait 3-4 à 10 000 $, ça va vite. Donc en une année, il s'est fait beaucoup d'argent, plus une marque qu'il avait développée à côté. Il a racheté la marque. Avec la marque, du coup, il s'est fait plein de bénéfices. Et à la fin, il a revendu la marque et il s'est créé sa propre marque à lui. Mais... Vraiment, ouais, vivre que des récompenses, c'est compliqué. Parce que je pense que les riders, après, qui arrêtent tout, qui font zéro travail que pour la trotte, je trouve ça très risqué, parce que c'est quand on fait un sport stable, on va dire, comme le foot ou quoi, où les blessures arrivent moins souvent, ou enfin, vont être moins définitifs, on va dire, un sport comme dans le ride, on n'est jamais à l'abri d'une grosse blessure, une jambe cassée, un bras cassé, et ça peut tout stopper. Donc quand je vois des gens qui vont un peu, qui travaillaient avant, vont devenir pro, vont tout arrêter... Je trouve ça très risqué, parce qu'il suffit qu'un jour, on le souhaite pas, hein, mais un jour une blessure ou quoi, en se donnant à fond, le sport il est fini, si pendant 3-4 ans ils font plus rien, ils vont vouloir rechever du boulot, ça va être compliqué, parce qu'il y en a plein, ils coupent leur étude. Après il y a des marques, il y a certaines marques qui vont obliger leur rider, leur dire « ok, vous rentrez chez nous », quand ils vont être jeunes ou quoi, mais on va dire « vous arrêtez pas les études ou quoi, c'est les études après le ride », parce que ça reste quand même super important, parce que oui c'est sûr, c'est cool de pouvoir vivre du ride, mais... C'est pas non plus définitif, c'est pas quelque chose de stable. Donc,
et toi, du coup, à côté, les études, c'est quoi?
Donc moi, j'ai eu mon bac ES, et là, je suis en BTS MUC, donc Management des Unités Commerciales, en alternance. Donc du coup, je fais moitié cours, moitié travail, ce qui me permet du coup d'avoir un petit salaire, et donc du coup, de pouvoir bouger plus facilement.
Excellent. Et donc du coup, si un jour tu veux monter ta boîte, tu sauras déjà comment être commercial.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, parce qu'aussi, un projet que j'aimerais serait pouvoir un jour bosser dans ce domaine, que ce soit ouvrir un shop ou par exemple ouvrir un skatepark ouvert. Ça c'est un truc avec mon père, on parle depuis des années. Un jour essayer de pouvoir développer une belle structure, vraiment comme ça, qui reste dans le ride, et ça peut être cool.
Eh ben, affaire à suivre. Et si ça se fait, évidemment, hein, t'hésites pas avec ton père à venir en parler sur Take It Radio. Nous, on est friands de tout ce type d'initiatives.
Yes.
Et par exemple, là, il doit y avoir plein de jeunes qui nous écoutent et peut-être des jeunes qui commencent la trottinette ou qui même commencent un peu plus, c'est-à-dire qui sont qui ont déjà un bon niveau. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller ?
Alors déjà, ce que je leur conseille, c'est de vraiment déjà la réussite, parce que j'ai pas non plus réussi, mais vraiment une des choses les plus importantes, c'est la détermination, c'est pas lâcher quand on est sur une figure, l'essayer. On sait qu'on va tomber, on va se faire mal, mais essayer. Et vraiment se motiver à fond, se trouver un idole, se trouver un rider qu'on aime, essayer de regarder ce qu'il fait, l'imiter pour donner des idées, vraiment chercher des sources d'inspiration. Par exemple, je sais que moi, beaucoup, c'est dans les vidéos de riders ou quoi. Et aussi, ce qui a commencé toujours en étant protégé, casque, genouillère, protège-dents, pas forcément au début, mais au moins le casque, le strict minimum.
Yes.
Et vraiment, voilà, se trouver une source de motivation, se lancer et pas lâcher.
Yes, et bien écoute, ça, c'est des super bons conseils. Donc, les jeunes, allez-y. Faites comme Louis, hein, protégez-vous déjà, voilà, bien la tête et tout, c'est super important. Ayez des idoles et surtout bossez vos tricks. Et peut-être que vous aurez le même niveau que lui, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et alors maintenant, on va terminer cette interview maintenant. C'était super cool de discuter avec toi et merci d'être venu sur Take It.
Ouais, merci de m'avoir invité aussi, ça fait plaisir.
Et ben, y a pas de quoi, c'est un plaisir. Et alors la dernière question qu'on aime bien poser chez Take It, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Je sais pas, éventuellement de me motiver, pour que je puisse essayer de représenter aussi Perpignan, qui est pas très connu, donc je peux essayer de souhaiter de bien représenter la Catalogne.
Excellent, ok, et bien on finit là-dessus, c'est le mot de la fin, on va représenter la Catalogne dans le monde de la trotte, énorme. Et bien écoute, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions, on se dit sûrement à bientôt.
Ouais, à bientôt j'espère.
Avec plaisir, tu reviens quand tu veux.
Yes.
Et ciao.
Ciao.
Take It News.